You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Valérie Boll, bienvenue sur les antennes de la radio SBS.
Merci beaucoup, Bertrand, de m'accueillir aujourd'hui.
Vous êtes curatrice d'une exhibition qui a lieu en ce moment à Melbourne, au musée de Melbourne, une exhibition d'art aborigène, mais d'art aborigène particulier, puisque c'est de l'art, non pas du Victoria, mais plutôt du Queensland, plutôt dans le fin fond du Queensland. Eh bien, parlez-nous de votre participation à cette exhibition.
Je suis donc une anthropologue et aussi une artiste d'origine française, alsacienne. Je suis arrivée en Australie il y a 19 ans à Adélaïde. J'étais invitée par une université et également par le Muséum d'Australie du Sud. Donc je suis toujours affiliée au Muséum d'Australie du Sud, mais je vis dans le nord du Queensland. J'ai fait une grande partie de mon terrain était dans le territoire du nord, dans le nord du territoire du nord en terre d'Arnhem. Mais il y a 10 ans, j'ai déménagé dans le nord du Queensland et c'est là que j'ai eu l'opportunité de faire du bénévolat au centre d'art aborigène Girigon à Cardwell.
Responsable du projet dont on parle aujourd'hui, donc l'exhibition. C'est une exhibition, on l'appelle Gathers and Gathering.
Oui, exactement. Mangan veut dire collecter, en fait.
Ok, d'accord.
Nous avons donné ce titre parce que les visiteurs qui auront l'occasion de voir cette exposition donc à Melbourne, au Melbourne Museum, il y a une grande sélection de paniers tressés. Et donc il y a également des paniers qui servaient à pêcher, des paniers pour attraper les anguilles. Donc l'accent, disons que la moitié de l'exposition, l'accent est vraiment mis sur la collection de ce qu'on appelle ici en Australie bush food, donc de la nourriture traditionnelle.
La cueillette.
Voilà, la cueillette, tout à fait. Donc, il y a aussi 2 documentaires qui sont aussi axés sur... un est axé sur... qui s'appelle Bagu with Jimam. Ça décrit la fabrication d'un objet pour faire le feu, pour créer le feu. Donc, une plaquette en bois avec deux baguettes en bois que l'on frotte entre ses mains.
Ça c'est une chose que beaucoup de nos contemporains ne savent pas, parce qu'on est habitué à avoir du feu, on a des briquets, des allumettes, toutes sortes de gadgets. Mais le feu, anciennement, il se faisait en frottant 2 morceaux de bois ensemble ou par d'autres mécanismes complètement inconnus de nos jours. Est-ce que ça, ça fait partie de...
C'était vraiment un objet très très important, surtout dans les régions tropicales comme le nord du Queensland, parce que sans feu, en fait, on ne pouvait pas cuire de la nourriture. Et donc, c'était un objet qui était très, très prisé.
Donc la domestication du feu, c'est une des premières inventions. C'était comme l'informatique aujourd'hui. C'était indispensable. On peut pas cuire sans feu. Et le feu, c'était souvent l'orage ou d'autres mécanismes naturels. Mais dès que l'homme a su, en fait... provoquer ou créer le feu ou domestiquer, en fait maîtriser le processus d'allumer un feu, c'est là que les civilisations ont commencé à grandir, parce que on est passé de la cueillette à la cuisson et à l'agrandissement des communautés, donc sont passés d'un stade assez primitif à des stades beaucoup plus évolués grâce au feu. Mais on parle aujourd'hui d'art contemporain plutôt, d'art contemporain aborigène et d'art d'un lieu que vous connaissez très bien pour y avoir habité et vous êtes l'une des conservatrices, curatrices des objets d'art. Eh bien, parlez-nous des artistes dont les objets sont exhibés dans cette, durant cette période donc qui a commencé il y a quelques jours et qui se déroulera jusqu'au 26 janvier. Parlez-nous de ces artistes.
Pour parler de ces artistes, il faut déjà que je vous dise que le territoire Grégoum, ici dans le nord du Queensland, est un territoire qui est vraiment immense. Les artistes sont un peu disséminés. Le fait de venir au centre d'art aborigène, malheureusement, ce n'est qu'une ou deux fois par semaine, parce que les distances sont relativement grandes. Cela leur permet de se retrouver, d'utiliser leur dialecte de parler. Je veux dire, les anciennes entre elles utilisent leur dialecte et parlent leur langage. Ça leur permet de se retrouver et ça leur permet de créer. En fait, quelque part, ça permet de continuer leurs activités, mais aussi de les insérer dans le présent. En créant des œuvres d'art qui sont teintées du passé,
oui.
Ça leur permet, comment dire, de vendre leurs œuvres d'art. C'est un appoint d'argent pour elles,
oui.
Mais aussi socialement et psychologiquement, parce que de voir qu'il y a tant d'intérêt pour leur culture,
oui.
Ça a vraiment un rôle incroyable au niveau de ce qu'on appelle en anglais well-being, oui, le bien-être. Oui.
Il faut souligner pour nos auditeurs que ces objets n'avaient jamais été, non seulement ils n'avaient jamais été exhibés, exhibés en public, parce qu'ils avaient été maintenus dans des collections privées ou chez des particuliers, mais jamais exposés. Et cette exposition est aussi une exposition itinérante. C'est la toute première fois donc, que ces objets vont quitter leur milieu d'origine pour voyager à travers l'Australie. Eh bien, parlez-nous de tout cela.
Donc, en fait, les œuvres d'art modernes qui ont été réalisées pour cette exposition,
oui,
s'inspirent d'objets traditionnels.
Oui, oui, oui.
L'exposition a été créée, la première exposition, en fait, a été créée pour le musée d'Australie du Sud à Adélaïde, parce que je suis affiliée avec ce musée et j'ai vraiment utilisé ma position pour essayer de commencer en fait ce projet, d'initier ce projet. Les artistes, quand je leur en ai parlé, ils ont vraiment saisi l'occasion et le South Australian Museum, enfin le musée d'Australie du Sud également. Ils ont trouvé que ce serait une opportunité vraiment exceptionnelle d'accueillir des anciens, qu'ils passent en revue les collections, qu'ils choisissent des objets qu'ils veulent montrer au public. Donc en fait, ça a été vraiment une première parce que jusqu'à présent, très très souvent, ce sont des chercheurs ou le personnel dans ces institutions, donc étant musées ou galeries d'art, qui choisissaient des objets et qui les montraient au public. Et dans ce cas-là, ce sont les traditional owners, les anciens, en fait, si vous voulez, qui eux-mêmes ont choisi les objets et ont décidé de les montrer. À Adélaïde, à l'exposition qui a eu lieu donc, au Muséum d'Australie du Sud, il y avait une dizaine d'objets qui ont été sortis des collections.
Oui.
Mais malheureusement, certains étaient trop fragiles,
oui,
et ne pouvaient donc pas participer à l'exposition itinérante. Donc il y a 5 objets qui ont été sélectionnés, qui participent donc à l'exposition itinérante, qui ira dans 14 différents endroits. Melbourne est le 8e endroit sur une période de 3 ans et demi. Les visiteurs qui viendront au Melbourne Museum vont avoir extrêmement de chance parce que le Melbourne Museum a accepté,
mmh,
que des anciens viennent et passent en revue leur collection. 15 objets avaient été sélectionnés par les anciens. En fait, 11 ont été choisis et font partie de l'exposition. Donc, à Melbourne, ont été ajoutés à l'exposition. Ce qui rend l'exposition encore plus merveilleuse parce que ce sont des objets très rares. La plupart n'ont jamais été montrés au public. Oui. Et il y a aussi également de grands objets.
Oui.
Il y a un bouclier magnifique.
Oui.
Et aussi un club qui est vraiment qui sort de l'ordinaire.
D'accord.
Et il y a aussi des petits objets qui sont plus, disons, moins utilitaires. Par exemple, il y a un objet qui est très proche de mon cœur parce que l'ancien principal qui m'a donc accompagné à Adélaïde et après à Melbourne pour voir les collections, il a trouvé un jouet qu'il utilisait dans son enfance. Et donc, quand il a vu cet objet, en fait, c'est un peu comme une courge d'une plante qui est utilisée comme rocher pour les enfants. Ça fait une éternité qu'il n'a plus vu une plante comme ça, parce que malheureusement, avec l'utilisation des pesticides et aussi parce que, je veux dire, malheureusement, ici, dans le nord du Queensland, il y a beaucoup de forêts qui ont été coupées pour faire place à des cultures comme la canne à sucre et les plantations de bananes. Malheureusement, la plante qui fournissait cette graine n'existe presque plus. Quand il l'a vue dans les collections, oh, je peux vous dire, ça a été un moment exceptionnel parce que son visage s'est illuminé. C'était comme s'il retrouvait un objet perdu, en fait.
Est-ce que...
Et nous avons eu le musée à Melbourne a permis à cet objet de sortir des collections et donc le public pourra voir cet objet.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.